Alors, depuis sa formation, le 1er octobre 2020, nous savions, même si ça ne se voyait pas, qu'au sein du gouvernement fédéral, tout le monde se détestait. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, les choses ont bien changé. Au sein du gouvernement, ils se détestent toujours, mais en plus, ça se voit. Et comme si ça ne suffisait pas, les familles politiques ne se contentent pas de se détester les unes les autres. À présent, on se déteste en leur sein. L'ambiance est si atroce que chaque membre du gouvernement et chaque président de parti rêve de retirer la prise, tout en sachant que pour ne pas être mal vu, il ne faut pas être celui ou celle qui la retire, il faut donc pousser les autres à le faire à votre place. Antipathie tenace, haine rance, rumeur nauséabonde, mensonges réciproques, secrets révélés en off et en on, ressentiment mutuel, malveillance glacée, hostilité brûlante, répugnance profonde, vengeance planifiée, agressivité sans limite, exécration féroce, déclaration à l'emporte-pièce, complot, machination, conspiration, manœuvre, manigance, intrigue. La Vivaldi n'est plus un gouvernement, c'est Gotham City, c'est Sodome et Gomorre, c'est le radeau de la Méduse. C'est pourquoi, les amis, après The Crown, après les chroniques de Brighton, Netflix prépare une série télé sur la coalition Vivaldi, une vraie grosse production avec un casting prestigieux qui permettra au monde entier de percer les sombres secrets des plus hauts niveaux de pouvoir. La série s'appellera The Last Belgium, The Vivaldi Chronicles. Et figurez-vous qu'une source travaillant chez Netflix m'a envoyé les épisodes de la première saison. J'ai tout regardé, c'est formidable. Vous voulez que je vous raconte?
Mais oui.
The Last Belgium, The Vivaldi Chronicles. Saison 1, épisode 1. L'épisode commence le 1er octobre 2020. Le décor, le palais royal. Le moment, 10h du matin, c'est la prestation de serment. Nous faisons connaissance avec les principaux protagonistes défilant devant le roi, interprété par Morgan Freeman avec l'élégance qu'on lui connaît. Au moment où Alexander De Croo, rôle tenu par Whoopi Goldberg, tout en énergie, c'est une série inclusive qui dépasse notion de couleur ou de genre. Hein. Au moment où Alexander De Croo s'avance vers le souverain dans la salle d'apparat de son palais niché au sommet des montagnes, Netflix a commis quelques erreurs géographiques, mais peu importe, quelqu'un fait un croche-pied au nouveau premier ministre qui tombe devant les journalistes, une scène d'une violence inouïe. Il se retourne et il voit qu'il s'agit de Jean-Gilles Quinet, interprété par un Dwayne Johnson surprenant, très amaigri et retréci pour le rôle, méthode acteur studio. Ce geste ne restera pas impuni. Saison 1, épisode 2. Le gouvernement, qui est en place depuis 3 mois, doit faire face à son baptême du feu, une grève du rail. Tandis que des milliers de nafteurs sont contraints de rentrer chez eux à pied en plein mois de janvier, les images des colonnes des pauvres travailleurs, hommes, femmes, enfants, errant le long de la E411 sont un camouflet pour le gouvernement. La presse reçoit d'une source anonyme une vidéo de Georges-Louis Boucher, incarné par une Jennifer Aniston, plus vraie que nature, mangeant du cygne farci à la truffe dans un jacuzzi et déclarant à son amant, rôle de l'amant de Georges-Louis confié à Joe Pesci, parfait à contre-emploi, s'ils n'ont pas de train mais qu'ils roulent en Mercedes. Indignation dans l'opinion publique. Épisode 3. La vague Covid numéro 431 frappe durement la Belgique, une vague terrible. Suite aux économies, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Laissés sans assistance, les Belges tombent comme des mouches. Le président du MR comprend que l'enregistrement du jacuzzi a été pris par Zakia Katabi, interprété par un Tom Hanks méconnaissable, afin de l'affaiblir politiquement. Durant le même épisode, une romance inattendue s'ébauche entre Karine Lalieu, Harrison Ford qui fait ici son grand retour, et David Clarinval, reconnaissable sous les traits de Julia Roberts. Aveuglé par la jalousie, Mathieu Michel, une inoubliable Demi Moore, urine sur les sandwichs juste avant le Codeco. Épisode 4, les prix de l'énergie battent tous les records. La Belgique sombre dans la récession. Affamée, les gens piègent chats, pigeons et rats pour s'en nourrir. La misère et la criminalité explosent. Bruxelles ressemble à Grozny, Anvers ressemble à Alep, Namur à Calcutta et Charleroi à Charleroi. Pendant ce temps, bien décidé à se venger de Georges-Gilles Quinet, Alexander De Croo complote avec Paul Magnette, joué par Nathalie Wood, ressuscité pour l'occasion. Le plan est machiavélique, le décrédibiliser en révélant sa relation avec Jean-Luc Cruc sous les traits de Sharon Stone, que l'on retrouve plus torride que jamais. Clin d'œil au mythique Basic Instinct lorsque Jean-Luc en petite jupette décroise les jambes lors de rendez-vous avec Paul au Parlement wallon. Épisode 5. Alors qu'une famine moyenâgeuse tord les boyaux du pays, au gouvernement, les intrigues atteignent leur climax. Frank Vandenbroek, interprété par un Johnny Depp méconnaissable, organise un bourrage papier de toutes les photocopieuses du gouvernement afin de semer le chaos. Adja Labib, sous les traits d'un Will Smith en état de grâce, avoue sa passion à Bart de Wever, Nathalie Portman impeccable, qui rompt dans la foulée avec Alexia Bertrand, Robert De Niro à son meilleur, malgré qu'elle porte en elle le fruit de leur amour. Fin de la saison 1. Je vous prédis une magnifique saison 2 à la semaine prochaine.
Quelle nouvelle série sur Netflix, ça va faire un carton. Hein.
Je pense.
Thomas Guzik, vous nous rappelez le titre? The Last Belgium.
The Last Belgium, The Vivaldi Chronicles.
Waouh, mais ça sort quand ça?
Dès ce matin.
Dès ce matin.